Slate Podcast.
You're the nothing, Chancellor.
You never say thank you.
That's what the money is for.
Winter is coming.
The danger. I am the one who knocks.
I think that
a damn fine cup of coffee.
The voice of my generation.
Suit up.
Bonjour les Marshmallows et bienvenue dans Pic TV, le podcast qui décortique et analyse vos séries préférées. Je m'appelle Anaïs Bordage et à mes côtés se trouve la redoutable Marie Telling. Salut Marie.
Je pensais que t'allais dire mon enquêtrice préférée. J'ai quand même deviné qui avait tué Laura Palmer.
C'est vrai, c'est vrai.
Désolée. Je mérite ce titre.
Cette semaine, on vous emmène en Californie, dans la ville de Neptune, où se déroule la série Véronica Mars, diffusée entre 2004 et 2007 et disponible actuellement sur Amazon Prime Video. C'est une série féministe, pleine d'esprit et qui a une place de choix dans notre panthéon personnel. Enfin, je pense que toi aussi, Marie.
Oui, oui.
Et on n'est pas les seuls à être très très fans de Véronica Mars.
Alors, comment expliquer le statut culte de la série ? A-t-elle bien vieilli depuis sa diffusion ? Et connaîtra-t-on un jour un meilleur couple que Love ? Je ne pense pas.
Non.
On vous dit tout dans cet épisode.
Mais avant ça, le pic de la semaine. Marie, c'est quoi ton pic ?
Mon pic, c'est un podcast que j'ai écouté cet été, qui est produit par France Inter, et donc que vous pourrez trouver sur les applis de podcast, mais aussi sur l'appli Radio France, qui s'appelle Cléopâtre, le génie politique, qui est un podcast qui s'intéresse à la figure de Cléopâtre et qui déconstruit tous les clichés autour de cette figure, qui montre comment, en fait, ce qu'on sait aujourd'hui et l'image qu'on a de Cléopâtre aujourd'hui est vraiment basée sur la propagande romaine de l'époque qui était très anti-Cléopâtre.
Et sur Monica Bellucci.
Monica Bellucci ou Liz Taylor, selon les références. Mais le podcast s'intéresse à la figure politique, en fait, de Cléopâtre en montrant à quel point elle a été éduquée pour devenir un génie de la politique. Elle a grandi entre Rome et l'Égypte. Elle était extrêmement intelligente, elle parlait, je crois, 7 ou 8 langues. Elle était une très fine politicienne et elle a souvent été limitée à son aspect sexuel, à ses relations avec César puis avec Antoine. Et là, le podcast s'intéresse vraiment à lui redonner son autonomie et ses lettres de noblesse et c'est passionnant. Il y avait des moments où j'étais là « waouh !» sur des rebondissements qui sont connus de plein de gens qui connaissent l'histoire, en vrai. Mais c'est très bien raconté et c'est vraiment très intéressant. Et c'est le genre de personnage féminin que j'aime beaucoup, qui a beaucoup influencé aussi bien la pop culture que la littérature, que notre image de la femme en général, et qui, là, est déconstruite de façon très intelligente. Et toi, Anaïs, c'est quoi ton pic ?
Moi, mon pic, c'est un petit billet d'humeur. Parce que je me suis posé une question.
Oui.
En regardant le générique de Véronica Mars et en regardant le générique de For All Mankind, dont on a parlé dans l'épisode de la semaine dernière, je me suis dit, qu'est-il arrivé au générique dans lequel on voit la tête des gens ?
C'est vrai, ça.
Et ça me manque beaucoup. Il y a de plus en plus de génériques de séries. Soit il n'y en a pas du tout. Lost avait un peu lancé ça et c'est juste le titre et il y en a pas mal qui font ça. Soit il y a des trucs un peu élaborés et ça a très bien marché pour Game of Thrones. Mais par exemple, Fondation, ils avaient un peu ce problème aussi. Enfin, il y a plein de séries, surtout de sci-fi ou de fantasy, qui essayent de faire juste un peu des effets visuels. On dirait un screensaver d'ordinateur, quoi. Alors que moi, j'aimerais bien voir la tête des gens.
En fait, pour moi, c'est pas ça le problème. C'est-à-dire que voir la tête des gens, c'est vrai que c'est très 90s et ça fait un peu chaîne de network américaine. Alors que moi, ce qui me manque, c'est un peu les génériques de la télé prestige, mais des années 2000, quoi. Le générique des Sopranos, on voit juste Tony, on voit aucun autre personnage, mais il est génial parce qu'il te donne l'atmosphère des Sopranos tout de suite, ou le générique de True Blood où tu voyais pas les personnages, mais t'avais un espèce de... Alors que ceux-là, t'as raison, c'est vraiment des, on dirait, oui, des fonds d'écran Windows, quoi.
Moi, j'aime bien voir la tête des gens, surtout que dans les séries que j'aime, il y a toujours généralement un ou plusieurs crushs, et il y a des épisodes où on va pas forcément voir un personnage qui n'a pas d'intrigue cette semaine-là ou quelque chose comme ça. Et les génériques, on voit la tête des gens, ils servent à ça. Ils servent à voir, même pendant 5 secondes, notre personnage préféré, qui est peut-être un personnage très, très, très secondaire et qu'on voit pas souvent à l'écran, mais du coup, ça nous rajoute un peu de screen time avec lui. Et ça permet aussi de connaître le nom des acteurs. Parce que, je sais pas si tu te rends compte, mais quand on parle de séries, de plus en plus souvent, à part les 2 ou 3 personnages principaux, on a du mal à nommer les personnes qui incarnent les rôles secondaires. Et je pense que c'est en partie à cause de ça, parce qu'en fait, moi, même à l'âge de 9 ans, je pouvais te dire le nom des acteurs qui jouaient les rôles secondaires de, tu vois, toutes les séries que je regardais à l'époque, parce qu'il y avait leur tête devant, quoi. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. J'aimerais qu'on ramène les têtes des gens dans le générique. Je pense que ce serait beaucoup plus sympa. Et d'ailleurs, on va tout de suite se lancer sur le générique de Véronica Mars, qui est sans doute un des meilleurs du genre. Vous entendez donc le générique de Véronica Mars, We Used to Be Friends, chanté par les Dandy Warhols, un vrai cultural reset pour ma part. Je
Moi
les
aussi.
Ai vu plusieurs fois en concert et à chaque fois j'étais « Ouais, Véronica Mars !» Marie, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Véronica Mars ?
Véronica Mars, c'est une série créée par Rob Thomas, qui est une série adolescente, avec Véronica, donc, qui est l'héroïne, qui est jouée par Kristen Bell et qui... et une lycéenne à qui il est arrivé tous les plus gros traumas de l'histoire. Et en fait, dès le premier épisode, on découvre que sa meilleure amie est morte l'année d'avant, qu'en menant l'enquête sur son meurtre, son père à Véronica, qui était shérif, a perdu son boulot, sa mère a disparu du jour au lendemain, et il se trouve aussi que Véronica, entre-temps, a été droguée pendant une soirée et a été violée. Et donc, elle s'est transformée, alors qu'avant, c'était une fille très populaire, un peu naïve, très souriante, qui avait tendance à être très optimiste et à voir le meilleur en tout le monde. Elle est devenue beaucoup plus indépendante, parce qu'elle a plus d'amis, la pauvre, mais aussi beaucoup plus coriace et acide dans son rapport au monde. Et en fait, elle travaille avec son père, qui est devenu détective privé, elle l'aide dans ses enquêtes, et elle est extrêmement débrouillarde. Et la série, le principe, c'est qu'elle mène des enquêtes sur le long cours, sur chaque saison. Donc la première saison, c'est vraiment sur le meurtre de son amie. Et en même temps, elle a toujours des petites enquêtes à mener à l'intérieur du lycée parce que les lycéens ont compris qu'elle avait des talents d'investigation et lui demandent de résoudre des choses comme « Mon petit ami veut diffuser une vidéo de nos ébats, comment je peux récupérer le téléphone ?» ou des choses comme ça. À chaque épisode, il y a une petite enquête. Donc c'est un mélange un peu de série adolescente, mais en même temps d'enquête et de série d'investigation. Anaïs, je crois que toi, tu as découvert la série quand tu étais très jeune. C'est quoi ton rapport à la série ?
Très jeune, non, mais effectivement, ça a été diffusé entre 2004 et 2007 et ça coïncide plus ou moins à mes années lycée. Fin du collège, début lycée. Oui, je suis très jeune. Ou très vieille, selon l'âge des gens qui nous écoutent. Et donc, oui, c'était la période parfaite, puisque c'est une série qui se passe au lycée. Évidemment, j'avais un crush sur Logan, qui est le beau gosse de la série. Et j'étais complètement fascinée par le personnage de Véronica. Et tous les soirs, après le lycée, je rentrais et je crois que c'était vraiment diffusé, genre à 17 ou 18 heures. Et on débriefait tous les lendemains avec ma meilleure copine. On était là... Est-ce que t'as vu Logan et Véronica se sont embrassés? On était complètement à fond. Et en plus, c'est vrai que c'était une période très formatrice aussi pour mes goûts musicaux. Et donc, notamment, j'étais à fond dans le rock et les Dandy Warhols. Ça a été une grosse ouverture aussi pour moi, ce générique. Et je voulais m'habiller comme Véronica Mars. Et j'aimais trop son style. Et même encore aujourd'hui, quand je regarde, j'aime trop comment elle s'habille. Avec le côté un peu androgyne, les vestons, tout ça. Et toi?
Moi, je l'ai pas du tout découvert à l'adolescence, mais je l'ai découvert quand toi, t'avais écrit, on était à l'époque, on travaillait ensemble à BuzzFeed, et tu avais écrit des posts sur Véronica Mars où t'avais classé tous les épisodes. Et à l'époque, je relisais tes papiers, et donc je l'avais relu, et je pense que ça m'avait donné l'idée de le regarder, parce que la date du post coïncide exactement avec le moment où je l'ai regardé, et il se trouve qu'à ce moment-là, je venais de rompre avec mon copain de l'époque. Et donc, j'étais un peu triste. Et j'ai regardé tout Véronica Mars. C'était en 2014, donc j'avais déjà... j'étais plus vieille. Et j'ai regardé tout Véronica Mars en quelques semaines. Et je ne connaissais pas les Dandy Warhols à l'époque. Et du coup, je suis devenue fan. Mais je me souviens que pendant plusieurs mois, je n'écoutais que ça à cause de la série. Mais j'ai adoré quand je l'ai découverte. Et depuis, j'ai revu surtout la saison 1 plusieurs fois. Et après, bon, il y a eu un film qui a été... payé par les fans, que je n'ai pas vu parce que j'étais pas très motivée, mais après j'ai vu la saison 4.
Ouais, on l'a vu ensemble d'ailleurs.
Oui, c'est ça.
Ouais, moi c'est vrai que je me souviens de cette période-là parce que c'est la période où j'ai redécouvert la série parce que je l'avais juste vue au lycée. Et un peu comme Buffy, je l'ai redécouverte ensuite à l'âge adulte et en VO parce que c'était 2014, c'était un peu le moment où il y avait une explosion des plateformes de streaming avec Netflix et plein d'autres qui se sont lancées. Et donc pour la première fois, il y avait un accès légal de très bonne qualité à Véronica Mars. Et donc j'ai tout revu. et je me suis rendu compte à ce moment-là à quel point c'était bien écrit. Et j'ai eu l'impression de découvrir la série une deuxième fois parce que bah, les répliques originales ont rien à voir et il y a beaucoup, beaucoup de jeux de mots et de références à la pop culture sur lesquelles j'étais un peu passée rapidement quand j'étais plus jeune. Et c'était vraiment un plaisir de redécouvrir ça et de voir l'intelligence de la série plus tard.
Mais c'est marrant parce que tu mentionnes Buffy, enfin, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que je pense qu'on a toutes les deux redécouvert à l'âge adulte en anglais en se rendant compte que la série dont on était fan à l'adolescence était bien plus intelligente et fine que ce qu'on avait capté à l'époque. Et c'est vrai que Véronique Amard, ça s'inscrit vraiment dans cette lignée aussi. Déjà, ça se passe en Californie, c'est des séries adolescentes avec une héroïne blonde, petite, qui a l'air toute mignonne, mais qui est beaucoup plus coriace que ce qu'elle n'y paraît. Et ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment cette époque, la grande époque des séries adolescentes, où va y avoir Buffy, puis Véronique Amard, et puis après, il y aura Newport Beach, Z aussi, qui se situe exactement dans la même région que Véronique Amard, dans un lycée très friqué de la côte californienne.
Avec des questionnements sur la classe aussi, la classe sociale.
Exactement, sur les rapports de classe là-bas, avec la criminalité versus la criminalité, mais des plus riches.
Ouais.
Et il y a aussi eu après Gossip Girl, qui a enchaîné après Newport Beach, où Kristen Bell fait la voix de Gossip Girl. Donc il y a un lien et un lien de filiation entre toutes ces séries. C'est assez marrant.
Oui, et d'ailleurs, en 2004, c'était aussi, il me semble, l'année de lancement de Grey's Anatomy, le lancement de Lost et le lancement de Desperate Housewives. Donc c'était vraiment l'âge d'or des séries des années 2000 que nous on a découvert vraiment quand ça passait encore à la télé et après sur megavideo.com. mais c'était vraiment une ère tellement plus simple.
C'est vrai.
On a revu quelques épisodes pour préparer cet épisode de podcast et notamment le pilote. Qu'est-ce que t'en penses de ce pilote ?
Moi, je pense qu'il est excellent. Je pense qu'il établit très, très bien tous les enjeux. C'est limite un peu trop parce que vraiment, en un épisode, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le pitch, c'est-à-dire qu'en un épisode, on découvre qu'elle a été violée, qu'elle a perdu sa meilleure amie, que son père a perdu son boulot, qu'ils sont ostracisés par la communauté locale et qu'en plus, sa mère a pris le large et elle ne sait pas où elle est. Donc, en un an, il lui arrivait vraiment beaucoup, beaucoup de choses.
C'est clair.
Il y a tout un enchaînement, mais en même temps, ça établit très, très bien le ton. C'est-à-dire que dès le début, on voit très bien qui est Véronica, comment elle se comporte. C'est très bien écrit, c'est marrant. Son rapport avec son père est déjà adorable et absolument génial.
Ouais.
Et on a tous les enjeux de la première saison, en fait.
On va vous donner un petit aperçu des personnages avant de rentrer un peu plus dans l'intrigue. Bon, il y a Véronica, je pense que tu l'as assez bien présentée. Elle a un sens de la répartie incroyable et ce qui est intéressant, c'est que Rob Thomas a dit que quand il l'avait créée, justement, bon, il y a une filiation avec Buffy très forte et il était assez fan de Buffy, mais il voulait une héroïne qui n'ait pas forcément de super pouvoir, mais pour lui, le plus grand super pouvoir à l'adolescence, c'est de ne pas se soucier de ce que les autres pensent de nous. Et c'est vrai que c'est ça qui rend Véronica très, très grisante pour nous. Et encore plus quand on était ado, c'est qu'effectivement, elle est harcelée au lycée, tout le monde se moque d'elle, elle est ostracisée, comme t'as dit. Et malgré tout, elle s'en fout.
You prank called Mandy?
What if I did?
Well, I want to congratulate you. Shake your hand. Congratulations. You've been named the world's biggest cockroach. This award is given in recognition of your unparalleled lack of decency and humanity. Bravo. You're going to die friendless and alone.
Hey, everybody knows you're the biggest.
Shut up. If I want you to speak, I'll wave a snossage over your nose. You use Mandy again to try to convince yourself that you're not a loser, I will ruin your life. Got it? You got it?
Okay, jeez.
I can't believe it. I can't believe that you didn't. You want people to leave you alone, Mandy? Or better yet, treat you with respect? Demand it. Make them.
Et elle se moque de tout le monde et elle accepte assez bien son statut de paria. Et c'est vrai que ça, je pense que on en a tous un peu rêvé à l'adolescence quand on avait peur de faire partie des losers et on aurait aimé assumer, comme elle l'assume, de faire partie des losers. Quoi.
Oui, surtout que ce n'est pas une posture de pseudo-rebelle. On comprend qu'au fond, elle s'en fout peut-être pas tant que ça et que surtout, ce n'était pas toujours le cas. Et elle a vécu aussi un traumatisme et qu'elle a été complètement rejetée. Mais c'est surtout ce qu'on comprend et ce qu'on voit à travers son personnage, c'est qu'elle est plus intelligente que son environnement et qu'elle comprend un peu l'absurdité des rapports humains et qu'elle a ce regard très vif sur tout ça qui fait qu'elle est au-dessus du lot et qu'elle peut justement ne pas se préoccuper de tout ça, quoi. Et c'est ça qui la rend, comme tu dis, hyper inspirante quand t'es une ado, mais même aujourd'hui. Hein.
Ouais, c'est clair. Bah, parce qu'en fait, elle fait un peu intouchable, même si elle l'est pas. Et c'est ça qui est intéressant. Elle peut être vulnérable aussi. Mais elle a vécu des choses tellement horribles que quand un mec lui parle mal ou la méprise, ce qui arrive à tous les épisodes, elle le regarde un peu en mode « Oh, c'est vraiment mignon, parce que qu'est-ce qui peut lui arriver,
oui,
en fait ?» Elle a déjà traversé bien pire qu'une petite réplique un peu déplacée dans les couloirs du lycée. Et donc, c'est vrai que ouais, c'est un des personnages féminins les plus inspirants de tous les temps.
Is he here yet?
He just arrived.
It's just like she said. Found the fake in his locker.
Process of elimination. I didn't do it.
What, me? Are you crazy?
How else do you explain the $250 in your wallet?
Big deal. This money's mine. It doesn't prove anything.
Why don't you take a closer look at the one on top? Read what's written over Grant's head.
Veronica Mars is smarter than me.
Oh, you stop it.
Il y a aussi Wallace, qu'on découvre dans le pilote, qui est vraiment hyper attachant.
Oui, alors Wallace, ça va être le meilleur ami de Veronica. On le découvre, le pauvre, attaché à un poteau, en caleçon.
Lui aussi est un bisu.
Ouais, il a été pris pour cible par le gang local. Très vite, ils vont devenir amis. Et c'est vrai que la série a besoin de ça. C'est-à-dire que si elle avait vraiment été toute seule tout le temps, là, on comprend qu'elle a été toute seule pendant un an et que d'un coup, elle a un meilleur ami qui va être là. Et Wallace adore Veronica. Il n'y a jamais aucune tension sexuelle entre eux. Mm. Mais il y a vraiment une amitié très, très forte. Ils ont un rapport un peu de frère et sœur, quoi. Et où il y a une confiance absolue entre les deux qui s'établit dès le début, où je pense qu'ils détectent tout de suite que l'autre personne est quelqu'un de très bien, ouais, et qu'il vaut mieux être ami avec cette personne plutôt qu'être populaire. C'est pour ça aussi qu'il est très attachant.
Et c'est hyper crucial ce que tu dis sur la confiance, parce que c'est un des trucs les plus frappants dans Veronica Mars, c'est qu'avec tout ce qu'elle a subi, elle ne fait plus confiance à personne. Et en particulier, elle est très très méfiante avec les hommes. Et il y a plusieurs moments vraiment bouleversants dans la série où elle pense qu'elle a été trahie par son père ou par Wallace ou par Logan, ou, enfin des hommes auxquels elle tient. Et tout de suite, en fait, elle se ferme complètement à eux et elle coupe tous les liens parce qu'on sent qu'il y a un gros traumatisme. Et donc, c'est vrai que Wallace, il joue ce rôle très important de soutien fidèle. Elle sait qu'elle peut lui faire une confiance aveugle et c'est vrai qu'on en a besoin parce qu'elle est quand même un peu toute seule à plein de moments.
I owe you big time.
I have my own reasons for doing it, trust me.
Oh, no, you don't. You really think I'm gonna let you get away with that? That might play with the masses. But underneath that angry young woman's shell, there's a slightly less angry young woman who's just dying to bake me something. You're Marshmallow Veronica Mars?
En parlant de mecs auxquels on peut pas faire confiance, on a Duncan.
Le pire de
déjà
tous.
S'appelle Duncan.
Il a une tête de con.
Voilà, il a vraiment une tête de con et c'est l'ex-petite amie de Veronica Mars, qui était aussi le frère de Lily, donc la meuf qui est morte. Et ils se sont séparés et il lui fait un peu des moues boudeuses depuis.
Il est insupportable.
Il est vraiment chiant et c'est un exemple de personnage qui a vraiment été... Enfin, le pauvre, c'est assez ingrat la manière dont il a été écrit aussi, parce que c'est de pire en pire, en fait. Enfin, il est insupportable avec tout le monde.
Ouais, et puis parce qu'il est torturé. Bon, il a perdu sa sœur et tout, mais c'est vrai qu'on ne voit que le côté...
Ça va, quoi.
Non. Mais en vrai, c'est vraiment horrible ce qui lui est arrivé. Mais on ne voit que le côté, bah, justement, boudeur et un peu chiant, quoi, du personnage. Il n'est pas du tout rock'n'roll. Il fait très gentil garçon propre. Donc, il n'est pas fun à regarder. Et en même temps, il a plein de problèmes.
Bah,
t'as
en fait,
juste envie de dire arrête, quoi.
Ouais, c'est ça. Bah, en fait, on apprend à un moment qu'il est épileptique.
Ouais.
Et qu'à cause de ça, il fait des crises où après, il se souvient plus de ce qu'il a fait et que ça le rend extrêmement violent avec des sautes d'humeur, etc. Et parfois, la manière dont c'est utilisé dans la série est un peu limite. Et c'est vrai qu'en plus, ça le rend très repoussant parce que parfois, il pète des câbles, on ne sait pas pourquoi. Il fugue à une ou deux reprises. À chaque fois, j'étais là, mais laissez-le partir, vraiment, ne partez pas à sa recherche.
Non, c'est ça. Et puis en plus, il a un physique de petit garçon, en fait, qui a grandi trop vite. Enfin, il a vraiment
un
physique
beaucoup
coupard
de protéines.
Oui, il fait footballeur américain, mais il a en même temps un visage assez poupon. Et du coup, quand il fait ses crises, on dirait vraiment un petit garçon qui fait un petit caca nerveux.
Comment s'appelle le mec qui a un accident dans le pilote de Friday Night Lights?
Il lui ressemble exactement,
ouais,
c'est
exactement
ça.
Et c'est le même type de personnage.
Ouais, exactement. Mais même Riley aussi, hein, c'est le même type de personnage.
Oui, c'est
dans
vrai.
Buffy.
C'est le mec un peu genre mignonné, mais qui devient très vite saoulant et qui tape des crises de nerfs tout le temps.
Ouais, qui il fait
et
vraiment genre
des...
nourri au grain, tu vois, enfin, dans une plaine américaine, mais qui en même temps est hyper relou, quoi.
Et qui a pas énormément de profondeur, quoi.
Non.
Et c'est vrai que c'est un des rares cas, parce que sinon tous les autres personnages de Veronica Mars sont vraiment géniaux. Et il y a son meilleur ami, qui lui, pour le coup, est génial. Vous avez entendu les gloussements de Marie. Son meilleur ami, c'est Logan Eccles. Et Logan Eccles, il est très grand.
Il est très mignon. En plus, enfin, vraiment, la première fois que j'ai vu, j'étais « Ah ouais, whatever ». Mais il est...
Non, mais c'est inexplicable, en fait. Pour moi, ce mec, il y a une alchimie incompréhensible, un ingrédient secret dont je ne connais pas la source. Oh là là, et même en revoyant les épisodes, j'ai 32 ans. Et j'étais là, ah oh mon Dieu. C'est lamentable. Je sais pas pourquoi, mais il a un effet.
Non, mais même, ouais, sa tête, si je voyais cette tête sur quelqu'un d'autre, ça fonctionnerait pas.
Ouais, c'est ça, non, mais rien fonctionne, mais en même temps, tout fonctionne.
Mais en fait, bon, Logan, pour donc le resituer outre les gloussements, à la base, c'est vraiment l'enfoiré du lycée quand on le rencontre. C'est le mec qui est le plus moqueur et même le plus violent envers Véronica. Et c'était l'ex de Lily, en fait. C'était le copain de Lily au moment de sa mort. Lily, donc l'amie de Véronica qui est morte. On sent qu'il va pas très bien à cause de ça. Il y a d'autres raisons aussi qu'on découvre au fur et à mesure de la série. Mais c'est quelqu'un de torturé, le pauvre.
Bah, c'est ça. Et moi, c'est vraiment...
C'est une âme meurtrie, tu vois. Et qui cache ça derrière une espèce de bravade, toujours à se la jouer. Et puis, il a toujours un petit sourire en coin. Il est très marrant.
Ouais, il a beaucoup d'esprit, en fait.
C'est ça.
Et c'est ça qui est génial, c'est qu'il a, en fait, l'esprit de Seth Cohen... mais plutôt le look de Ryan, enfin parce que c'est un peu le beau gosse du lycée aussi, le mec populaire. Mais en même temps, c'est vrai que certaines des meilleures répliques de la série viennent de Logan.
I was wondering if I could have a word. Anthropomorphic. All yours, big guy. Never underestimate the size of my cojones. If you really want flowers, dying seems to be the way to go.
Et ouais, moi, j'en ai déjà parlé, mon archétype préféré, qui est très présent dans les séries de lycée, c'est le mec qui joue au gros dur et qui est en fait un gros sensible. J'adore ça. Et en fait, il y a beaucoup de personnages comme ça dans Véronica Mars. Il y a aussi Weevil, qui est une autre itération de ce cliché.
Weevil, qui est le chef du gang local.
Ouais.
Avec qui Véronica Mars se lie d'amitié et ils font équipe plusieurs fois dans la série parce qu'on comprend que Weevil, il est un peu dans le business du gang parce que il vient d'un quartier très défavorisé, qu'il est rentré là-dedans un peu naturellement, mais il a un grand cœur et il s'occupe de sa grand-mère et tout.
Ouais, c'est ça. Il vient tout le temps soutenir Véronica et surtout quand elle a des emmerdes avec d'autres mecs, il est tout le temps là.
Il est toujours c'est un mec au final assez réglo. Une des scènes qui me brise le plus le cœur, c'est quand il se fait arrêter au moment de la remise des diplômes devant sa grand-mère. Et oh là là, ça c'est vraiment... Mais ouais, Weevil, c'est un mec bien au fond.
Ouais, il est génial. Et il y en a un dernier qu'on n'a pas mentionné, mais qui est très important, c'est Keith Mars, qui est donc le père de Véronica.
Le meilleur père de la pop culture.
Ouais, je suis d'accord. Il n'y a pas mieux.
À la fois droit, moral, gentil, il
drôle.
Soutient sa fille et voilà, hyper drôle, plein d'esprit. Il a plein de petites blagues avec sa fille. Ils ont une relation, mais... Oh là là, c'est une relation tellement belle. Pour moi, c'est la plus belle relation de la série.
Oui.
Et c'est le cœur de la série. En fait, l'âme de la série, c'est sa relation avec son père, quoi.
Ouais, complètement. Et c'est un des rares aussi... Enfin, il y avait beaucoup d'acteurs qui étaient un petit peu moins connus dans Véronica Mars. Et lui, c'était un des vétérans. C'est Eric Colantoni. Il a joué dans New York Police Judiciaire, dans New York Police Blues.
Dans tous les New York Police.
Il a joué dans Bones. Enfin, c'est vraiment le genre d'acteur que tu croises généralement pour un ou deux épisodes dans plein de séries. Et donc, qui a une tête très connue, sans forcément que les gens puissent l'identifier. Il avait joué dans Monk, dans Stargate, Les Experts, il en a fait plein. Et en fait, honnêtement, la série ne fonctionnerait pas sans lui et Kristen Bell et l'alchimie qu'ils ont. C'est très, très bien écrit, mais c'est aussi, en fait, il y a un tel talent dans la performance des deux acteurs. Moi, c'est ça qui m'a vraiment époustouflée, là, en revoyant tous les épisodes. C'est que je me dis, de moindres acteurs, ça aurait pas aussi bien fonctionné. Et avec eux, en fait, ça fait des étincelles.
Ah ouais, non,
totalement. Exceptionnels.
And?
Who's your daddy?
Ugh, I hate it when you say that.
You know what? This is important. You remember this. I used to be cool.
When?
77. Trans Am, Blue Oyster Cult in the A-track, a foxy stacked blonde riding shotgun racing for pink slips. Now, wait a minute. I'm thinking of a Springsteen song. Scratch everything. I was never cool.
I don't know which bothers me more, foxy or stacked.
Et il y a d'autres personnages qu'on ne découvre pas forcément dans ce pilote, mais qui sont joués par des acteurs quand même assez BG. Bon, il y a Amanda Seyfried qui joue Lily, qu'on voit dans le pilote et qu'on voit ensuite dans plein de flashbacks dans toute la saison 1. Mais plus tard, on va aussi avoir quand même Tessa Thompson, qui a un rôle principal. On a Max Greenfield qui jouait Schmidt dans New Girl, qui joue aussi un des intérêts romantiques de Véronica Mars. Enfin, il y a vraiment eu un casting en fait de malades et certains qui ont été révélés par Véronica Mars ou qui ont eu vraiment une carrière assez impressionnante plus tard.
Et puis après, il y a pas mal aussi de guest stars comme Jessica Chastain était dedans, mais c'est sur des petits rôles.
Ben, un peu ce que Eric Colantoni faisait dans les autres séries.
Oui, c'est ça, de guest star d'un épisode lié à une affaire. Il y a aussi Kristen Ritter.
Il y a eu Adam Scott.
Adam Scott qui jouait un prof horrible.
Il y a eu Paul Rudd, il y a eu Armie Hammer. Il y en a vraiment eu beaucoup et ouais, vraiment le casting de Véronica Mars est assez impressionnant rétrospectivement. À l'époque, on ne se rendait pas forcément compte, mais il y a du lourd. Un des thèmes principaux de Véronica Mars, vous l'aurez compris, c'est la violence sexiste. Et c'est ça qui était vraiment plaisant quand j'ai redécouvert la série à l'âge adulte, c'était de me rendre compte à quel point c'était féministe, un peu comme Buffy. Encore une fois, grosse filiation. Et là, c'est vrai que quasiment tous les épisodes, elle est en train d'aider d'autres femmes, quand c'est pas elle, à s'en sortir quand on les a menacées avec du revenge porn, à enquêter sur une série de viols, par exemple, dans la saison 3. Et elle est tout le temps sous-estimée, en plus, par les mecs qu'elle croise, qui lui font des remarques désobligeantes, qui la traitent de blonde, qui lui font des remarques salaces. Et elle est tout le temps en train de se défendre contre des mecs sexistes et de les menacer avec son taser. Mm. Et c'est très, très appréciable.
Car trouble, miss?
Yeah, as a matter of fact, I think it might be a loose belt, but if you wouldn't mind checking under the hood...
Hey, Weevil, who gets the first hand? Get him off me! Virgin, let's call off your door!
Back up, chill. I'll tell you what. Leave that kid at school alone for a week, and I'll make sure your boys walk.
Why you care so much for that skinny Negro anyway? Things I heard about you, you must really lay the pipe right, huh?
Yeah, that's it.
All right. Felix, we get it. You're a badass, okay?
Et donc, tout ça donne un ton assez similaire au ton des films noirs à la série. C'est en fait une référence très assumée où il y a plein d'ailleurs d'hommages à certains films noirs ou à certains archétypes du film noir. Parce que c'est vrai que c'est quand même une série où, enfin, une ville où il y a beaucoup, beaucoup de crimes.
Oui.
Et beaucoup de choses louches qui se passent tout le temps.
Déjà, dans ce lycée, honnêtement, il y a le nombre de morts.
Ouais, c'est ça.
Entre la première et la deuxième saison, c'est
assez impressionnant.
C'est rude,
ouais. Et donc, on a beaucoup de plans de Véronica Mars quand elle est dans le bureau de détective qu'elle partage avec son père, avec les persiennes à moitié tirées et un peu le clair-obscur, et elle est en train de regarder par la fenêtre. Elle est tout le temps avec son gros appareil photo, son gros objectif.
Donc, oui, à faire des plans que...
Voilà, donc il y a vraiment les éléments du film noir avec le détective qui a toujours de la répartie et qui est toujours un peu mystérieux. Et ça, j'adore, quoi.
Ouais, et puis c'est le détective qui en a vu. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est une meuf de 16 ans,
ouais.
une petite blonde de 16 ans, mais qui en a vu aussi, quoi. Et qui se laisse pas impressionner.
Ouais, c'est clair. D'ailleurs, c'est un truc qu'on a pas mal critiqué dans d'autres épisodes de ce podcast, c'est le cliché du personnage féminin « badass », entre guillemets, qui a toujours le bon mot, qui est un peu dur à cuire, qui se laisse jamais impressionner. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec Véronica Mars, c'est pas du tout quelque chose qui me dérange. Alors certes, c'est un cliché qui est un peu vieilli depuis et c'est pour
ça
que...
C'est ça, c'est devenu impensif alors qu'à l'époque, ça l'était pas encore.
Voilà. Mais en plus, je trouve qu'elle a aussi plus de finesse que ça et c'est ça qui est vraiment malin, c'est qu'on la voit au final être quand même assez vulnérable. Et on voit aussi que c'est pas toujours quelque chose de positif. La carapace qu'elle s'est créée, comme je disais, le fait que dès qu'elle a le moindre doute, même sur son propre père, elle l'isole totalement parce qu'elle se dit « je peux plus lui faire confiance ». Enfin, on sent que c'est quelque chose de très solitaire quand même, l'état dans lequel elle vit, et qu'elle va, au fil des saisons, apprendre à se réouvrir un petit peu. Mais je trouve que c'est très malin et que, bah, justement, même une série de 2004, au final, était un peu plus fine sur le cliché de la fille badass que certaines qui sortent aujourd'hui.
Oui, et puis même quand, par exemple, il y a des confrontations qui sont vraiment très violentes. Pour moi, les deux finales, en fait, le final de la saison 1 et le final de la saison 2, elle est en danger de mort dans les deux. Elle n'est pas en train de dire « va te faire voir
!» Oui, elle est en train de pleurer.
Elle est en larmes et de cris. Et ouais. elle est en larmes et elle crie parce que oui, elle est pas dans une situation où justement son taser est suffisant. Il y a quand même plein de situations où elle est ramenée à être très vulnérable. Et de toute façon, en plus, c'est une victime de viol. C'est quelqu'un qui... a été très amoureuse, elle est encore, qui a eu le cœur brisé. Et c'est plein de choses qui sont abordées et qui la rendent beaucoup plus intéressante. Enfin, je pense que de toute façon, le poncif de la meuf badass, c'est quand on le voit dans The Handmaid's Tale ou des trucs comme ça, où c'est tellement... Il n'y a qu'un seul niveau de lecture, en fait, de ces personnages. Et c'est tellement facile de tomber là-dedans. Tandis que Véronica Mars, déjà, c'est une des premières à l'avoir fait de façon aussi intelligente comme Buffy. Et c'est plus complexe que ça n'y paraît.
Mais heureusement, ça a l'air très sombre comme ça, mais il y a quand même un peu de légèreté.
Et quelle légèreté.
Le Le couple Veronica Logan, ou Logan Veronica, qui a été rebaptisé Love, est un des meilleurs couples de la pop culture et du petit écran. Marie, est-ce que tu veux nous parler de ce couple ?
Évidemment. Alors, moi, c'est ma partie préférée de la série, sans aucune surprise, même si j'aime beaucoup le reste, mais c'est ça que je revois le plus. Donc, Logan et Veronica sont des anciens amis qui étaient dans le même groupe, mais qui sont devenus complètement antagonistes au début de la saison 1. Mais au fur et à mesure, on sent quand même que Logan a du respect pour Veronica, qui commence à comprendre aussi que quand elle enquête sur la mort de Lily, elle est peut-être pas si loin du compte que ça, et qu'en fait, elle a peut-être raison de continuer à enquêter. Et surtout, c'est le cliché dont tu parlais tout à l'heure, du bad boy au grand cœur. On découvre au fur et à mesure de la saison 1 que lui a énormément de vulnérabilité aussi. C'est-à-dire qu'il est battu par son père, qui est extrêmement abusif, et il va perdre sa mère. À travers ces épreuves, il va se rapprocher de Veronica, qui déjà va découvrir un autre aspect à la personnalité de Logan et qui va s'attacher à lui. Et en plus, elle va l'aider parce qu'il pense que sa mère n'est pas vraiment morte. Elle va l'aider à enquêter là-dessus et ils vont se rapprocher. Et dans l'épisode 18 de la saison 1, elle est en danger, ou en tout cas, elle pense être en danger. Elle est kidnappée, plus ou moins, à un moment où elle est au téléphone avec Logan et donc elle ne raccroche pas. Elle dit où elle va à voix haute pour qu'il puisse l'entendre. Et là, il vient. Et il faut un gros coup de poing au mec qui l'a kidnappée pour l'aider et pour la sauver. Et elle est tellement touchée après qu'elle l'embrasse.
Ouais, c'est génial.
Et c'est un des plus beaux moments de l'histoire de la télé.
Ouais, non, franchement, moi, j'ai suivi les rebondissements de Love à l'époque. Mais il y a peu de couples qui m'ont autant...
Happée.
Ouais, happée, enthousiasmée. Et vraiment, en fait, encore une fois... Tout repose sur l'alchimie. Les deux acteurs ont une super alchimie. Et comme tous les deux, c'est deux des personnages qui ont le plus de répartie, c'est juste génial quand ils sont ensemble.
Yeah, Veronica Mars. No, Veronica V, as in virgin.
Look at you, all helpful.
Hey, your pestiness being unleashed on Connor brings me joy. Annoy, tiny blonde one. Annoy like the wind.
Any explanation?
My day is complete. Veronica Mars has accused me of evil.
Thanks for the ride.
Does this mean you're gonna play nice now?
Walk in front of the car, we'll see. You seem to care a bit what I think.
Tell the truth, Veronica. Did you just sign up for a newspaper so you could be around Duncan?
Nope. I'm here so I can be closer to you.
Le grand truc de Veronica et Logan, quand même, c'est qu'ils vont se séparer 48 000 fois dans cette série et
évidemment
se remettre ensemble. Mais en même temps, c'est toujours bien fait. Et même quand ils se séparent, il y a toujours des interactions entre eux. Et ça pétille.
Ouais. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, ils ont tellement de respect et d'admiration l'un pour l'autre que c'est hyper plaisant. Enfin, vraiment, on sent que c'est pas que de l'attirance purement physique, qu'il y a vraiment un...
Ah, mais lui, il la regarde avec un regard, mais tellement rempli d'amour, d'affection et d'admiration. C'est-à-dire que vraiment, une fois qu'il a passé le cap et arrêté d'être un gros connard, c'est la number one à ses yeux. Et d'ailleurs, je pense qu'on a une scène culte en commun sur Logan et Veronica. Bon, tout le monde l'a en commun. C'est dans la saison 2, ils ont rompu et elle va à une soirée, à un faux bal de promo chez lui. Il est bourré et il commence à lui dire...
I thought our story was epic, you know? You and me.
Epic how?
Spanning years and continents, lives ruined, bloodshed, epic.
Je pensais que notre histoire était épique, qu'elle ruinerait des vies, qu'elle dépasserait des continents, que du sang coulerait, etc. Et Veronica lui dit, mais tu penses vraiment qu'une relation, ça devrait être si dur que ça? Et lui dit,
no one writes songs about the ones that come easy.
Bah, personne n'écrit des chansons d'amour sur celles qui se passent bien.
Oui,
c'est trop beau.
Mais après, il va coucher avec Charisma Carpenter, une autre guest star qui revient beaucoup, Cordelia de Buffy.
Tout à fait. On a aussi regardé le final pour préparer cet épisode. Et là, pour le coup, je dois dire que c'est un des moins bons finales de série de tous les temps. C'est pas un mauvais épisode, mais en tant que final...
C'est pas un final.
Voilà, ça marche pas du tout.
Mais d'ailleurs, c'était pas un final, en fait, c'est ça, non ?
C'est ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la série était déjà en danger après ses deux premières saisons. Il y a eu une très grande campagne de fans pour que la série soit renouvelée, et elle l'a été pour une saison 3. La saison 3 a même été hachée en plusieurs parties. Ils ont renouvelé pour un certain nombre d'épisodes, puis encore un peu plus. Et à la fin, les boss de la chaîne sont allés voir Rob Thomas, le créateur, et lui ont dit On te propose de finir ça en beauté et de boucler un peu toutes les boucles et de faire un beau final. Et Rob Thomas a dit non, allez vous faire foutre. Parce qu'il ne voulait pas, selon ses dires, il ne voulait pas leur faciliter la tâche. Et il ne voulait pas que annuler Veronica Mars soit facile. C'est vrai que quand on voit le final, on se dit c'est vraiment abusé d'annuler la série après ça parce qu'on veut voir ce qui se passe après. Et donc effectivement, c'est un peu un anticlimax. Et en plus, on revient un peu au point de départ à la fin de ce final où Veronica et son père sont redevenus des parias. Et c'est un peu horrible. Enfin, c'est vraiment un final hyper décevant.
Mais surtout, il y a un cliffhanger à la fin. On ne sait pas. Enfin, elle vote pour son père, mais on ne sait pas s'il va être élu ou pas, quoi.
Ouais, c'est ça. Et c'était vraiment la stratégie un peu de terre brûlée de Rob Thomas qui a dit « Bah non, je ne vais pas vous donner ce que vous voulez et je ne vais pas faire une conclusion à la série. Je vais la finir comme ça. » Et ça a plus ou moins marché puisqu'au final, il y a eu encore une campagne de fans pour que la série soit ressuscitée parce qu'on se disait « On ne peut pas finir là-dessus. »
Mais il y a carrément eu pour le film, c'est les fans qui ont payé le film, en fait. Il y a eu un crowdfunding des années plus tard. Et c'est grâce aux fans qui étaient tellement investis que le film a été fait et il y a eu un tel succès autour du film qu'après, une quatrième saison a été lancée. Ne parlons pas de cette quatrième saison parce qu'il se passe des choses traumatisantes dedans que je ne reconnais pas comme étant dans le canon de Veronica Mars.
Juste pour la campagne, c'était la campagne à l'époque la plus populaire de Kickstarter et ils ont recueilli 5,7 millions de dollars, ce qui est un tout petit budget pour un film hein, et ça se sent un petit peu, enfin c'est en plus un gros épisode de série. Moi je l'ai acheté sur Apple à l'époque parce que je voulais vraiment le voir et honnêtement il est pas si mal que ça, mais c'est vrai que globalement la saison 3 et le final font partie des moins bons. De la moins bonne partie de Veronica Mars.
Bah en fait, c'est comme si c'était un épisode individuel de milieu de saison, parce qu'il y a une enquête qui ne tient que sur cet épisode. C'est un truc de... je ne sais même plus. Enfin, je l'ai vu hier, je ne m'en souviens même plus. Enfin, ouais. C'est un truc où je sais qu'elle prend le disque dur externe du père de Duncan.
Ah oui, voilà. C'est sur une fraternité secrète.
Oui, voilà, un truc comme ça. Mais je ne me souviens même plus comment ça... Ah oui, parce qu'il y a une vidéo qui sort d'elle. Et encore une fois, bah, toujours le thème.
Ouais, un truc de revenge porn.
Voilà, un truc de revenge porn où elle a été filmée à son insu alors qu'elle couchait avec son mec. Et ça a été diffusé à toute la fac. Et c'est ça, en fait, l'histoire du final.
Et Logan tabasse tout le monde. Bon, c'est un peu
problématique,
voilà,
mais
elle-même, macho,
mais en fait, elle lui fait remarquer. C'est-à-dire que c'est ça le truc à chaque fois, c'est qu'il tabasse d'abord son mec à elle, je pense que c'est lui qui l'a fait, et après, il tabasse le mec qu'il a vraiment fait, et surtout, le moment où c'est assez romantique, c'est qu'il va pour le tabasser, et elle lui dit « Non, le fais pas, ce mec est hyper connecté, et en fait, je m'attaque pas à lui parce qu'il est, il est dangereux. » Et Logan lui dit « Ah oui, d'accord, ok, ok. » Ils ont une conversation, la conversation se finit, et Logan se jette sur le mec et le fracasse. Elle le regarde avec énormément d'affection et de reconnaissance, alors qu'elle lui avait dit 5 minutes plus tôt qu'elle en avait marre qu'il tabasse des gens pour elle, quoi. Ce que oui. Je peux comprendre.
Mais oui, la saison 3 était quand même moins bonne. Et bah, c'est vrai que la série n'avait pas des super audiences malgré son énorme réseau de fans. Et donc, il y a eu un changement entre la 2 et la 3. La 3 n'était même pas censée se produire à la base. Et en plus, il y a eu un changement de chaîne. Donc, les deux chaînes ont fusionné. Il y avait The WB et UPN qui ont été les deux chaînes aussi qui ont accueilli Buffy. Et ensuite, pour la dernière année de Veronica Mars, elles ont fusionné et ça a créé The CW qui est devenue depuis la chaîne de référence des séries adolescentes. Et qui d'ailleurs a annoncé récemment, un nouveau patron a dit qu'ils allaient arrêter parce que leur public était des hommes en moyenne de 60 ans. Et du coup, j'ai envie de dire, bah, peut-être que tous ces hommes adoraient les frères Scott. Et qui êtes-vous pour juger leur goût?
C'est clair.
Voilà.
Mais ce qui est intéressant après, c'est qu'il y a eu une super série dont on a déjà parlé dans ce podcast, qui a été faite par Rob Thomas aussi, et où on retrouve une grande partie du casting. C'est Party Down, qui est une comédie complètement. C'est un genre totalement différent. C'est sur une équipe de serveurs, de traiteurs qui... font des mariages ou des célébrations et en fait on les suit.
Ils sont tous des acteurs
ratés à Hollywood. Et il y a Adam Scott dedans, avant Parks and Rec et donc après son apparition dans Veronica Mars. Et d'ailleurs c'est une running joke entre Kristen Bell et lui parce qu'il joue toujours des gens qui s'opposent. Parce que Kristen Bell est une guest star dans Party Down. Et à chaque fois qu'ils sont dans une série ensemble, ils se
détestent.
Ils se détestent, voilà. Ouais. Alors qu'ils sont très amis apparemment dans la vraie vie. Il y a celui qui jouait Dick Casablancas aussi dans Veronica Mars.
Ryan Hansen.
Voilà.
Qui est très pote d'ailleurs, je crois, avec Kristen
ouais,
Bell aussi.
C'est un de ses meilleurs amis. Ouais. Et qui est aussi dans la saison 4. Et il y a aussi...
Ken Marino,
qui joue le patron dans Party Down et qui jouait Vinny dans Veronica Mars.
Voilà, qui est très bon pour les rôles de clown, en fait.
Et, ouais, de neuneu, un peu.
Ouais.
Voilà. Et on recommande aussi.
Ah oui, vraiment, regardez Partie d'Arme. On va finir cet épisode avec un petit aperçu de nos personnages, moments, répliques préférées.
Après, on en a parlé un peu de certaines, mais on va...
Voilà. Personnage principal préféré.
Je pense que c'est Keith. Moi, c'est le père de Véronica. En vrai, non, c'est Véronica, évidemment. Mais ouais. Si je ne veux pas choisir la voie la plus évidente. Et j'aime beaucoup Logan, mais Keith, vraiment, c'est pour moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le meilleur père de la pop culture. Toi, ouais. C'est qui?
Pareil. Mais je pense que Véronica, du coup, enfin, c'est oui. Vrai que... Elle est quand même incontournable. Personnage secondaire préféré?
Je crois qu'on a le même aussi. J'en ai deux, moi, en vrai. Okay. J'ai Cliff, qui est un avocat extrêmement
c'est
séduisant.
Mon daddy. c'est vraiment mon daddy.
Et il fait partie, en fait, des personnages qui sont des mecs bien dans la série, mais qui, en même temps, sont pas des...
Mais qui est, en même temps, très moqueur et oui, qui voilà. A un côté un peu... Au début, on se rend pas forcément compte. Enfin, on sait qu'il est sympa et qu'il est inoffensif, mais en même temps, il est pas non plus mou du genou, quoi.
Non, c'est ça, exactement. C'est pas un Duncan. Et ouais. Il a un côté très marrant et très vif aussi. Donc, je l'aime ouais. Beaucoup. Et oui, il
a une voix très profonde. Oui, et il est vrai. Très sexy. Et c'est vrai que, ouais, moi, je le trouvais... Très marrant quand j'étais adolescente. Et maintenant, à mon âge, Cliff, appelle-moi ouais. Quoi.
Et l'autre, le deuxième, c'est Dick Casablancas, qui est en même temps une horrible personne, mais qui me fait beaucoup rire. Et qui a des moments aussi de vulnérabilité qui sont assez touchantes dans la série, mais qui juste est le plus divertissant de tous. Quoi. Il ouais. Est tellement con.
Et Ryan Hansen est tellement drôle. Et si vous voyez Luke dans The O.C., c'est exactement le même prototype de personnage. C'est ouais. Le blond... débile, qui est du coup un peu cruel, enfin qui va pas hésiter à harceler parfois ses camarades de classe.
Ou
mais,
son frère.
Voilà, mais qui est un peu inoffensif au final et effectivement très touchant. C'est vrai que je l'adore. Pire personnage.
Pire personnage, c'est Duncan.
C'est Duncan, sans hésitation, même si j'avoue que Beaver, son frère...
Enfin, le frère de Dick, du coup.
Oui, le frère de Dick.
Il a plus de niveau de lecture, parce que Beaver, c'est quelqu'un qui a été abusé dans son enfance par son coach. C'est quelqu'un aussi qui a été torturé au quotidien par son frère, quand même, mais qui est horrible au final et qui est criminel et qui va commettre certains des pires crimes de toute la série. Mais je le trouve, enfin, vraiment, Duncan, il est juste chiant, en fait, tu vois.
Oui, oui, non, Duncan, il est horrible. Vraiment, il n'y a pas photo. Et honnêtement, Lily, je la déteste un peu aussi. Elle est morte, mais vraiment, she ain't no Laura Palmer. Hein. Elle est vraiment relou dans les flashbacks à chaque
ouais,
fois.
Ouais, mais moi, elle me fait marrer, je sais pas. C'est une connasse, quoi, mais ouais, elle est marrante.
Ta scène préférée?
Ma scène préférée, je crois que c'est le premier baiser. Enfin, c'est celle que ouais. J'ai vue le plus. C'est vraiment le moment parce qu'en fait, elle lui fait un petit smack, un peu de reconnaissance. Et il a l'air complètement genre sur le cul.
Et elle aussi, elle a ouais. L'air un peu surprise par son propre
exactement.
Acte.
Exactement. Et elle commence à s'éloigner et il l'attrape et il l'embrasse. Et c'est vraiment... j'aime beaucoup cette scène. Toi, c'est quoi?
C'est la scène des toilettes. Du coup, c'est après cet épisode-là du premier baiser. C'est le premier épisode où Love est officiellement ensemble, même s'il se cache de tout le monde. Et donc, entre les cours, ils se retrouvent dans les toilettes des filles pour se faire des grosses sessions roulage de pelle. Et il y a cette scène où vraiment, en fait, ils font que ça pendant une minute, que s'embrasser, et c'est trop bien.
J'avoue, à chaque fois que je revois Véronica Mars, j'ai tendance à sauter les épisodes du milieu de la saison 1. Je regarde ouais. Le début et après, je vais direct à l'épisode 15 quand ça commence à monter la tension entre eux.
Pareil.
Et vraiment, la scène des toilettes, je ne la loupe jamais. C'est très important.
Ta réplique préférée?
Il y en a énormément de Véronica qui sont très drôles, mais ouais. Enfin, c'est celle dont on a parlé tout à l'heure, c'est le petit discours de ouais. Logan.
Je pensais que notre amour était épique.
Ouais. Ouais. Moi aussi. C'est rentré dans les annales de la télé, quoi.
Ouais, c'est ça. Et vraiment, je me souviens, même en VF, c'est sans doute la seule réplique en VF qui m'a marquée. C'est-à-dire que toutes les autres, maintenant, ça a été remplacé par mon expérience de la série en VO, mais à l'âge de 16 ans, quand Logan dit « Je pensais que notre histoire était épique », ça m'a terrassée, quoi. Voilà, merci Logan. Et j'avoue aussi que j'aime bien quand Véronica dit
« I hope we're still friends after I taser you ».
J'espère qu'on sera toujours amis une fois que je t'aurai tasé.
Oui.
On va finir avec un petit exercice qu'on aime bien faire de temps en temps. C'est choisir une équipe avec les personnages de la série. Et donc là, on s'est dit qu'on aimerait bien, par exemple, si on devait nommer un gouvernement, piocher certains des personnages de Véronica Mars.
Bon, je commence avec Cliff, ministre de...
Ah ouais, d'accord.
Ministre de l'Intérieur, parce que je voudrais qu'il administre mon intérieur.
Of course. moi, je pense que je choisirais Keith Mars parce que je pense que c'est le plus compétent. Qui tu choisis ensuite?
Ensuite, Logan. Je le mets aux armées parce qu'il est très, très beau dans un uniforme.
Donc, t'as pris Cliff et Logan?
Ouais, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de parité.
T'as juste une team beau gosse, en fait, quoi.
C'est ça.
Je pense que je prendrais Véronica en deux parce que bah, oui, moi, je prends les plus compétents. Toi, tu prends les plus beaux. Moi, je prends les plus compétents. Je pense que si on veut s'en sortir, on a besoin d'eux, tu vois. Ensuite.
Je prends Dick Casablanca.
Ton gouvernement, ça va pas du tout aller, en fait.
C'est le ministre du fun, tu vois. Ouais. Enfin, bah, je sais pas, t'as vu qui on a à l'heure actuelle ?
C'est vrai. J'aime bien Jackie. Je pense qu'elle, je la prendrais aussi. Bon, j'adore Tessa Thompson et elle est vraiment bien dans Véronica Mars. Je pense qu'elle pourrait faire de belles choses.
Bon, moi, je vais prendre... J'allais prendre Mac pour avoir une meuf, mais en vrai, elle m'énerve un peu. du coup, je vais prendre la meuf jouée par Charisma Carpenter pour juste continuer dans le désastre de ce gouvernement.
Waouh. On n'a pas trop parlé de Pease, le pauvre, qui est franchement... Bon, il n'est pas à la hauteur de Logan, mais il est quand même sympa.
Oui, il est
marrant.
Sympa. Et puis, c'est pas un Riley, pour le coup.
Ouais, c'est ça. Et moi, je dois avouer que quand j'étais ado, je trouvais qu'il faisait bien l'affaire. C'était un triangle amoureux crédible, en fait, entre les trois.
C'est un gentil, quoi.
Ouais, voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, puisqu'on n'a pas trop d'autres idées. Et...
Bah, moi, mon gouvernement s'est écroulé au bout de deux jours.
C'est ça.
Le tien, par contre, c'est l'avenir de la République.
C'était Pic TV, merci Marie.
Merci Anaïs.
Et merci les Pickies de nous écouter toutes les semaines. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Pic TV sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Et on se retrouve très vite.
Salut. Pic TV est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez.